vue d'ensemble de l'actualité. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Trêville PM.
Ah, on l'a écouté, hein? On l'a écouté. Je pense que c'est, ça, c'était les petits bonhommes du samedi matin, si je me trompe pas. Spider-Man, Spider-Man. Ben, c'est ça, là, la toune qu'on vient d'entendre. Alors, ben voilà. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux? On va tous passer par là. Le père de Spider-Man, enfin, il est copapa, parce qu'il n'était pas tout seul là-dedans. Stan Lee est décédé. 95 ans, le bonhomme. Il a une belle vie. Il a une belle vie, mais pas toujours facile. Et c'est ce que Luc Dupont, je crois bien, professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, va nous dire. Bonjour, Luc.
Bonjour, Bernard.
C'est ça, il laisse une œuvre populaire considérable, mais ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Hein?
Non, effectivement, spécialement dans les derniers moments de sa vie. Bon, quelque part au début de 2000, il s'est lancé dans l'aventure Internet parce qu'il avait souvent le sentiment d'avoir peut-être pas fait autant de fric qu'il aurait dû avec Marvel et avec tous les personnages qu'il a créés. Parce que Bernard, c'est incroyable, là. C'est Spider-Man, c'est les X-Men, c'est Black Panther, Ant-Man, Iron Man, Blade, Punisher, Avengers.
Thor aussi,
Thor,
non? Thor,
oui, ouais, Thor, c'est exact. Ça. Ouais. Hulk, Daredevil, les Fantastic Four, donc les quatre fantastiques. Évidemment, tu le mentionnais il y a deux instants, puis c'est important de le préciser. Co-créer, hein, qu'est-ce que ça signifie? Ça prend des dessinateurs, on se relance des idées. À un moment donné, on imagine un personnage, on n'a pas le nom. Le dessinateur trouve le nom, mais il n'y a pas le vêtement. On lui fait deux ou trois suggestions. Donc, c'est un processus là, de maturation qui est assez intense. Puis, sur ce plan-là, moi, tu vois, si j'avais une petite critique à faire à Stan Lee, c'est que ça lui est arrivé parfois d'oublier de mentionner qu'il y avait d'autres personnes qui avaient contribué à créer ces personnages-là. Ceci étant dit, le joueur clé, celui qui a contribué à faire connaître ces personnages-là, qui a réfléchi aussi sur les scénarios, parce que je te rappelle qu'à l'origine, voici quelqu'un qui rêvait de faire des scénarios de films et pas du tout du comic book. D'ailleurs, Stan Lee, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Stanley Martin Lieber. Mais ce qu'il avait l'habitude de mentionner et de rappeler, c'est qu'il gardait ce nom-là pour sa vraie carrière. Et tu devines qu'il ne l'a finalement jamais utilisé.
Ah oui.
Parce que sa vraie carrière, c'est devenu les comic books. Et comme toute bonne histoire, ben, ça commence par accident. Il a 15 ans, il participe à un concours de dessin. Il remporte le concours, 20 $.
Hey boy, ouais.
Et pas grand-chose, tu me diras, mais ça change à certains égards complètement sa vie. Par la suite, éventuellement, ben, il cherche un premier petit boulot. Il se rappelle qu'il avait déjà participé à un concours de dessin. Et là, il approche un membre de la famille qui, lui, est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Timely Comic, qui éventuellement va devenir Marvel. Et on va l'engager, mais pas pour faire des personnages, pour créer des histoires, mais pour servir le café et les sandwichs.
Oui, oui, dans le papier de François Lévesque du Devoir de ce matin, il disait, pendant qu'il y en avait qui trempaient la plume dans l'encre, moi, je m'assurais qu'il y ait de l'encre dans les encriers.
Oui,
écoute.
Et à un moment donné, un soir, avant de fermer boutique, le patron l'approche et dit, écoute, je vais t'offrir une promotion. Donc, tu passerais des sandwichs et du café et des biscottes à effacer. Lorsqu'on écrit les textes dans les bulles,
oui.
Évidemment, on les écrivait à l'encre dans un temps 2, mais dans un temps 1, on utilisait un crayon de plomb.
Ben oui.
Alors, voici ta promotion. Tu vas effacer le plomb. Les crayons de plomb qui dépassent.
Pour qu'on puisse y aller avec la version finale à l'encre qui va aller à l'imprimerie.
Oui, c'est ça.
Et
il dit formidable. Mais là, tu devines ce qu'il fait éventuellement.
Il va les changer, c'est ça?
Exact.
Oh.
Il dit, je trouve que c'est pas bon, cette réplique-là. Je vais la modifier.
Oh, c'est bon. Il y a quelque chose d'un peu délinquant là-dedans.
Oui, absolument. Et je pense qu'il y avait un petit côté délinquant. Puis en même temps, il y avait un petit côté niveau 2 ironique. Hein? Quand on lisait tout ça, on comprenait qu'il y avait... Voici un super-héros qui ne se prend pas tout à fait au sérieux. Je pense à Spider-Man, je pense que c'est le meilleur exemple.
Oui.
Et la force, évidemment, de Stan Lee, c'est précisément, je te rappelle, l'histoire d'un gars qui voulait devenir scénariste de films à Hollywood et romancier. C'est précisément ça, sa force, mais c'est d'avoir fait ça dans l'industrie du comic book, qui était jusqu'à ce moment-là une industrie, il faut le dire, un peu boutonneuse. C'est-à-dire que Superman serait un bel exemple de ça. Quand tu lis les dialogues de Superman, tu as souvent l'impression qu'on s'adresse, mais vraiment un tout tout petit garçon là, qui n'est pas particulièrement intelligent. Et lui va arriver et Spider-Man, soudainement, se pose toutes sortes de questions. Entre autres, dans un numéro historique maintenant qui vaut une fortune, il va s'intéresser à la drogue, à la consommation de drogue. Il prend ce risque-là. Spider-Man va nous parler de ça. Il va nous...
Il n'en prend pas, hein?
Non, puis il va nous dire que ce n'est pas une bonne idée.
Mais il se demande si le fait d'en prendre ne lui permettra pas d'avoir de meilleures performances. Ça doit être ça, j'imagine?
Il se remet en question. Il y a un petit moment comme ça. Puis évidemment, on est dans les années 60. C'est le moment clé de sa carrière. Évidemment, même s'il a commencé à la fin des années 30, là, pour être plus précis. Mais Black Panther est un bel exemple. Black Panther, c'est lui. Alors, à un moment donné, il regarde la guerre du Vietnam et il dit, ah, il me semble. Puis il regarde les mouvements sociaux, les manifestations à Washington. Mais il semble qu'il faudrait créer un personnage qui s'inscrit dans ces mouvances-là sociologiques. Et il va créer Black Panther. Et c'est un peu la même chose avec Hulk. Hulk, ben, c'est la grande menace, la bombe, hein, la bombe atomique.
Ah oui! Ah ben oui, évidemment!
Alors quand on commence à réfléchir pour tous les personnages...
Les rayons gamma, puis
oui,
tout ça.
Oui, les rayons gamma.
Ben, oui. Donc c'est la guerre froide, c'est un produit de la guerre froide, Hulk.
Oui.
Ah bon, c'est intéressant ça, j'avais Fantastic pas réalisé
Four.
Ça.
Oui, les quatre fantastiques, même chose, on est dans les années 60. Est-ce que ça pourrait pas être un groupe de personnes au lieu que ça soit juste une personne? Et est-ce que les super-héros doivent toujours combattre le mal, ou est-ce que les super-héros, parfois, se posent pas la question pourquoi je réussis pas en amour, pourquoi il manque de sous pour payer le prochain voyage, etc.
Et ça coïncide
avec la création des quatre fantastiques.
Moi, je me souviens d'un film qui avait été fait, si je me rappelle bien, c'était Spider-Man. Je me souviens plus de l'actrice féminine. J'aurais dû le chercher là, avant de faire l'émission. Mais écoute, c'est une histoire d'amour un peu compliquée là. Puis à un moment donné, elle se retrouve prise dans l'intrigue, puis il est obligé de la sauver. Mais il l'aime dans sa vraie vie, de Peter Parker. Mais là, il peut pas lui dire qu'il est Spider-Man. Mais là, il se retrouve à un moment donné, elle est prise dans l'intrigue, puis il est obligé de la sauver en Spider-Man. Puis je pense qu'à la fin, il lève son masque, puis il l'embrasse. Là, c'est très romantique.
Oui, et c'est tout le problème aussi du super-héros. C'est lorsqu'il tombe en amour, généralement, il peut peut-être perdre un petit peu ses pouvoirs magiques. Alors, tu vois que ça aussi, il a contribué à créer ce que j'appellerais l'archétype du nouveau super-héros, qui est un personnage... binaire, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté toujours fondamentalement insécure.
Oui.
Et puis, de l'autre côté, ben, lorsqu'il revêt la cape, là, ben, c'est l'homme le plus brave du monde. Puis, il est capable de tout faire.
C'est un peu notre fantasme, hein? Dans le fond, c'est un peu ça. Hein? On est humain avec nos doutes puis tout ça.
Oui.
Puis on aimerait ça une fois de temps en temps être des super-humains, des super-hommes, des super-femmes.
Et je pense que tu mets le doigt sur un élément important. Quand on parle de culture populaire, c'est qu'il a contribué au fond à créer ça. Et sur ce plan-là, ben, il nous a tous accompagnés à un moment donné ou à un autre de notre vie. Là, quand tu faisais jouer tantôt là, la ritournelle du début d'émission là, de Spider-Man, moi, instantanément, et c'était, je te confirme, c'était le samedi matin.
C'est ça, hein? Puis il se promenait d'un édifice à l'autre en faisant « chiii,
chiii,
chiii ».
Et dans ce cas-ci, c'est pas le meilleur produit qu'on a vu de Spider-Man.
Non.
C'est pas lui en passant qu'il n'était pas il n'a pas contribué à ça, là, à cette série-là plus précisément. Lui, il disait que c'était pas son meilleur produit. Mais évidemment, quand il jetait un coup d'œil sur les films plus récents, là, il les trouvait remarquables. Puis ce qu'il racontait, c'est que l'image synthèse ben, permet d'exploiter pleinement les pouvoirs extraordinaires de tous ces super-héros-là. Parce qu'à une autre époque, c'était parfois, disons, passable. Hein?
Oui,
sur le plan des effets spéciaux, là, on est à l'époque, pour être certain qu'on se suive tous, là, de Ma sorcière bien-aimée et de Genie, là. Les effets spéciaux, au fond, c'était prendre la caméra, éteins-la l'espace d'un instant, déplace l'objet, on repart la caméra.
Puis... mets un petit peu de boucan pour marquer la disparition ou la réapparition. Alors, les auditeurs qui sont toujours super allumés m'informent que c'est l'actrice Kirsten Dunst, D-U-N-S-T. C'est elle qui a joué. Elle jouait le rôle de Mary Jane Watson dans la trilogie Spider-Man.
Exact. Là, tu parles des films, bien sûr.
Oui,
plus
voilà,
récents.
C'est ça. C'est
exact.
Ça.
Quoique déjà, au moment où on se parle, on l'a remplacé. On a même tourné, au bout d'une dizaine d'années, carrément le même film, le même scénario, identique, avec de nouveaux acteurs. Et pour ceux qui auraient une mémoire éléphantesque, Stanley avait déjà commencé au préalable à vendre les droits de certains de ces personnages-là. Vous avez eu un film de Spider-Man qui est passé à peu près inaperçu avant le film auquel tu référais il y a deux instants, parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, Marvel a traversé à un moment donné une période extraordinairement difficile et Stan Lee, pour sauver l'entreprise, a commencé à vendre à la pièce certains produits. Et c'est pour ça, Bernard, que si jamais tu vas à Orlando et que tu veux prendre connaissance des super-héros de Marvel...
Oui.
Tu dois curieusement te rendre dans le parc d'amusement d'Universal. Or, je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que c'est Disney qui a acheté les droits de Marvel.
Et donc, explique-moi, et donc, pourquoi tu t'attendrais chez Universal?
Alors, tu t'attendrais à ce qu'évidemment le parc d'amusement de Marvel se retrouve
chez Disney,
n'est-ce pas, logiquement?
Oui, oui.
Alors, c'est lorsque Marvel a traversé cette période-là très difficile, Stan Lee a pris des initiatives personnelles. Il a commencé à vendre certains personnages et certains droits. Et dans le cas d'Universal, donc, ils ont ce droit-là, aussi curieux que ça puisse paraître.
Je comprends.
Et c'est ça qui a amené éventuellement Disney à acheter coup sur coup Marvel pour à peu près 4 milliards de dollars et Star Wars pour 4 milliards de dollars.
Pour avoir le plein contrôle sur les produits.
Exact. Et dans l'intermède musical, Disney était en avance pour obtenir les droits d'Harry Potter.
Mm-hmm.
Et on s'est chicané sur, entre autres, les droits et sur aussi le droit de regard par la suite là, dans les parcs.
Et c'est Time Warner qui l'a eu finalement.
C'est Universal. C'est là qu'elle s'est déplacée de parc. Et à l'entrée d'Universal, la légende veut que la personne qui l'a accueilli, un simple employé, a reconnu l'auteur d'Harry Potter. Et il lui a dit, ne bougez pas, madame, je vais aller parler au patron, mais ne bougez pas. Et c'est par la suite qu'éventuellement, il a vendu ces droits-là à Universal. Et pour là aussi, pour la petite histoire, l'idole de Stan Lee, c'était Walt Disney. Alors, tu vois-tu comment on revient toujours au même... Il y a une espèce de lien là, immanquable. Et à la fin, il disait, mon seul échec, c'est que je n'ai pas réussi à créer un empire comme Walt Disney.
Comme Walt Disney.
Et j'aurais le goût de te dire que si je l'avais eu devant moi, je l'aurais repris. Je lui aurais dit, non, c'est pas si mal. Là. On parle de films à la télévision, on parle évidemment de cinéma, on parle de jouets, on parle de produits.
On parle de personnages qui vont...
On parle de jeux vidéo.
On parle de personnages. Tout le monde connaît Spider-Man.
Effectivement.
Luc Dupont, merci. Toujours intéressant. Professeur au département de com à l'Université d'Ottawa. À la prochaine. Et c'est Loïc Tassé qui s'en vient avec l'International.